Aujourd'hui enseignante, universitaire à Rennes et élue, Montserrat Casacuberta racontait à Françoise Ramel en juillet dernier le parcours qui l'a mené de la Catalogne jusqu'à la Bretagne. Femme de caractère, Françoise Ramel.
Moi, je suis née sous le franquisme encore. Hein. J'étais toute petite, j'avais 8 ans quand le général Franco est parti. Et donc, j'appartiens à une minorité en Espagne qui parle catalan, qui fait quand même plus ou moins 10 millions de personnes, mais elle s'en sert dans l'État espagnol, donc dans le territoire espagnol. Donc, on se sent quand même une minorité qui a été longuement persécutée par rapport par rapport à sa langue, etc. Politiquement aussi, hein, mais bon, on peut s'en passer. Et moi, j'ai grandi dans cette conscience d'avoir une langue qui n'était pas celle de tout le monde. Voilà. Et ça m'a un peu construit après politiquement aussi. Autour de la langue, c'était, vous voyez, moi, j'étais adolescente dans les années 80, parce que je suis née en 67. Et dans les années 80, heureusement, on était parti. On avait dépassé un peu le franquisme. Il y avait toute une construction hein, de cette Espagne, des autonomies qui étaient en train de se bâtir. Et donc, le catalan connaissait enfin, hein, après avoir été hyper persécuté, après avoir il a connu pour la première fois après la guerre d'Espagne une loi qui le protégeait en 83. Et moi étant adolescente, déjà toutes ces questions me passionnaient. Je me rappelle plein d'anecdotes dans ma vie où tiens, pourquoi je me rappelle de ça? C'est parce que c'était par rapport au catalan ou parce que c'était par des questions linguistiques. Et puis, le temps venu, je suis allée en fac et j'ai fait des études de philologie catalane. Donc, j'ai fait des études de philosophie et lettres et des lettres modernes catalan-espagnol. Et plus tard, en 97, je suis venue à Rennes pour la première fois faire lectrice de catalan à la fac.
Pourquoi
lectrice de catalan, c'est-à-dire un prof hein, de langue étrangère qui est embauché en CDD, jeune, qui vient apporter son expérience.
Alors, avant d'arriver à Rennes, est-ce que tu peux revenir sur l'adolescente devient une jeune adulte et il y a une expérience qui te marque déjà à ce moment-là, c'est tu deviens prof de catalan, langue étrangère, et j'imagine qu'en parallèle, il y a déjà une première expérience politique et je pense que c'est cette façon de lier la transmission d'une langue et l'engagement militant continue aujourd'hui à être très présent dans ta vie, on en parlera tout à l'heure.
En effet, j'ai fait prof de langue catalane à Barcelone, j'ai commencé ma carrière à Barcelone, mais je n'étais pas embauchée en tant que prof, mais en tant qu'agent de politique linguistique. C'est-à-dire que ce gouvernement qui venait d'être bâti dans les années 80-90, il mettait en place un réseau de professionnels qui allaient dynamiser cette langue qui avait été évidemment les catalanophones de première langue, ils savaient pas l'écrire. Par exemple, donc il y a eu tout un travail de alphabétisation dans cette langue, mais il y avait aussi dans ces années-là à Barcelone, il y avait des gens qui arrivaient de d'autres parties de l'État espagnol et qui avaient besoin d'apprendre le catalan pour mieux s'insérer dans le travail, pour mieux s'insérer tout simplement.
Il faut rappeler pour les gens qui connaissent mal la situation en Espagne et en Catalogne, c'est que la Catalogne est une région très industrialisée et voilà, qui a aussi les moyens quelque part de son autonomie, de son utopie plus ou moins aboutie récemment autour de cette question-là, parce que c'est une région riche et donc du coup il y a aussi des gens qui viennent pour le travail et qui viennent d'ailleurs. Et le catalan est une langue d'intégration. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ouais, exactement. On a, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est de bâtir un discours qui était vrai dans cette société. Vous voyez, les gens qui sont venus de d'autres parties de l'État, c'était des Andalous venus du sud de l'Espagne ou des Galiciens qui venaient de l'Ouest. C'était des gens qui n'avaient rien chez eux et qui cherchaient à travailler, et donc des gens qui étaient des perdants aussi, des vaincus de la guerre, si vous voulez, hein. Et donc ça a fortement lié nos peuples. Aujourd'hui, les Catalans, moi j'ai plein d'amis qui disent, mais moi je suis un Catalan pur souche puisque j'ai 4 noms de famille qui ne sont pas catalans. Et donc, je suis catalan pur souche. Vous voyez? Parce que la société a été après mélangée et point ligne et point barre. Et en fait, on a toujours dit un seul peuple. Un seul peuple. Peu importe. Peu importe tes origines, on s'en passe.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants? Est-ce que à ce moment-là, tu enseignes aussi le catalan à des gens qui viennent d'encore plus loin, ou est-ce que c'est plus tard?
Un peu plus tard, dans les années 2000. Dans les années 2000, la Catalogne connaît une deuxième vague migratoire très importante qui vient de partout dans le monde, des anciennes colonies, donc les latino-américains, mais aussi des africains, subsahariens, tout ce que vous voulez. C'est les années où il y a eu cette bulle immobilière très importante, et les gens trouvaient du travail. Et on a reçu plus d'un million de personnes en quelques années, en 10 ans. Donc, qui faisaient plus de 15% de la population migrante. Vous voyez, c'est beaucoup. Et donc, c'est là que on s'est retrouvé avec nos services de formation en langue, qui étaient consacrés à ce moment-là. Ils étaient consacrés et aux catalanophones qui ne savaient pas l'écrire et aux gens qui ne le parlaient pas parce qu'ils étaient issus de l'immigration autrefois, etc., qui venaient l'apprendre à l'oral. Et on s'est retrouvé avec 1 million de personnes qui ne venaient pas de ces bords-là, et qu'il fallait, si vous voulez, leur donner l'atout. Parce qu'en Catalogne, si tu as les deux langues, c'est mieux. C'est mieux pour tout, pour ta vie en société, pour trouver du boulot, pour plein de choses.
Alors, évidemment, après tu vas venir en Bretagne, mais c'est une autre histoire. Est-ce que tu peux nous lire un petit texte de ta main pour conclure cette première partie d'émission et nous présenter d'ores et déjà le premier morceau que tu as choisi, Al Café Antique. Ça sert à rien que j'essaye l'accent. Hein.
Al Café Antique, qui veut dire qu'est-ce qu'on dirait à la taverne ancienne, à l'ancienne taverne, hein? Ouais, voilà. C'est Lluís Llach. Lluís Llach, c'est un chanteur, très connu en Catalogne, qui est devenu un symbole parce que c'est un chanteur qui, sous le franquisme, chanter des chansons en catalan, qui était persécuté, qui est venu en France un peu se réfugier à un moment donné. Et il y a une chanson, mais c'est pas celle-là, hein, mais il y a une chanson que tout le monde connaît dans les plusieurs révolutions. Là, dernièrement, en Biélorussie, ils ont repris ce morceau. C'est la staka, hein, qui parle d'un plot qui va tomber, et si on tire ce plot tous ensemble, un jour il va tomber. Et il parle du franquisme, il parle de la dictature. Et il a été repris, cette chanson, elle a été reprise à un moment par Lech Walesa dans la révolution en Pologne. Et à partir de là, Elle a été traduite partout dans le monde.
Et c'est aussi un beau message, et on va t'écouter lire ton texte, de dire voilà, qu'une langue soit minorisée ou l'outil d'un État, en fait, quand elle a des messages à faire passer, eh bien, elle voyage aussi à travers plein de révolutions. Quel texte as-tu choisi ? C'est un extrait d'un... Je tourne les pages avec toi. Donc, tu as choisi...
C'est le Festival de cinéma de Douarnenez, la 35e édition, où j'ai été invitée justement parler des langues, hein, c'était une édition qui était consacrée à la Catalogne, le Pays Basque et la Galice, hein, et donc j'ai été invitée pour parler des langues.
Alors, ce texte, nous t'écoutons.
Le texte, en fait, ils m'ont demandé de faire un texte plus de fond pour l'édition de la, comment on dit, du catalogue.
Voilà, alors catalogue, donc daté de 2012, on est à Douarnenez pour le festival de cinéma. On t'écoute, Manche.
Et l'histoire et les destins des langues ont été trop souvent et malheureusement l'histoire d'un rapport de force entre peuples. Celui avec plus de pouvoir a en général imposé sa langue au peuple à son contact. Un groupe socioculturel avec plus de pouvoir politique qu'un autre tend à faire en sorte que sa langue puisse véhiculer la vie en société, qu'elle soit la langue commune de tous les citoyens. Nous l'avons vu en France à partir de la Révolution. Ce rôle bénéfique donné aux Français a été compris comme un anéantissement des autres langues présentes sur le territoire de l'État-nation. L'Espagne n'en a pas fait moins, bien que le résultat ne soit pas exactement le même à l'heure actuelle. Je vais vous lire la fin de ce texte qui fait 3 pages, donc je ne vais pas vous lire, bien sûr. Abandonner l'idée du 19e siècle qui prônait la construction de l'État avec une seule langue hiérarchiquement imposable calmerait les tensions linguistiques internes qui ne font que nous empêcher de vivre tous sous le respect de l'autre et de ses particularités.
El que sentic quan la cervesa desvella somnis pels senzills. Pugem les vinyes amb les estrelles i fem l'amor als déus humils. Ella té uns ulls de poesia, cos de cirerí florit. Alguns festegen la Maria mentre jo et guanyo a persis. Alguns festegen amb la Maria mentre jo et guanyo a persis. Però vos ni ja no hi neixen les mentre que es maig en Sergi canta, plora el vent i en sang el cor per tant d'horror que ens separa. Europa creix sobre els vostres morts, mercadejant sense vergonya. Però la fredor d'aquest quinyol mai no hi serà el cafè nostre. El cafè antic al fum s'emporta temors i angoixes nit enllà, mentre amb el ritme de les converses roden les boles de i quan la lluna s'entoni busca el seu lloc entre els xiprers, el poble sembla que se n'adoni que és allí dalt només per ell. El poble sembla que se n'adoni que encara maten infants i algú a pagat per cada bala. Contra el seu viure el poderós, assassinant la misèria. La nit estén el seu trist parat sobre els meninos que tremolen. Rostres que escruten la foscor cercant l'amor que enlloc troba. El cafè antic el temps reposa i els dits no em compten el neguit, perquè les cartes damunt el mar fan un dibuix massa bonic. Perquè les cartes damunt el mar fan un dibuix massa bonic. Tens a venir quan la tendresa de tots plegats sigui el coixí, unint els somnis amb les estrelles. Recordarem el cafè.
Femme de caractère, au pluriel, avec un S à femme, mais aussi à caractère, puisqu'il s'agit également d'une émission sur la littérature, l'écriture. Certaines invitées écrivent des romans, des articles, des films. Et certaines écrivent aussi pour elles, parfois pour matérialiser une réflexion, pour se souvenir d'une anecdote amusante, ou encore pour raconter un événement difficile, violent, voire traumatisant de sa propre vie. L'émission avec Amandine Dubois, diffusée en septembre dernier, en était un exemple, un épisode très fort et marquant pour toutes celles et ceux qui l'avaient écouté.
C'est un texte qui est important pour moi. Je t'ai dit, hein, quand on en a discuté de l'émission, que j'écrivais. J'écris plusieurs choses. J'écris des histoires et j'écris des textes un peu percutants aussi sur ce que j'ai pu vivre en tant que femme. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près 16 ans. Et je l'ai écrit il y a quelques mois. Ça a mis 16 ans à sortir et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de le lire à la radio parce que je l'ai publié à d'autres endroits, mais bon, voilà. Donc c'est la première fois que je vais en faire lecture. C'est quelque chose d'assez fort et qui me paraissait important de lire. Ça s'appelle « Je repense à ce jour ». Je repense à ce jour où j'avais fait le ménage tôt le matin, plutôt contente de moi car j'ai toujours été très bordélique. Quand tu t'es réveillée et qu'à cause du sol mouillé, tu ne pouvais pas traverser la pièce pour venir prendre ton café. Et cette manière que tu avais eue de t'énerver et de tout balancer dans la pièce, en m'invectivant car ce n'était pas le moment et que tu avais besoin de ton café. J'aurais peut-être dû me méfier, mais j'étais amoureuse. Je repense à ce jour où j'ai eu le courage de t'annoncer que je te quittais, et ta colère, ta violence, et ma peur qui m'a fait m'enfuir. Et la vision de mes affaires passant par la fenêtre de notre appartement du 3e étage et atterrissant dans la rue. Cette chaise en bois s'écrasant au sol et passant à quelques centimètres de la tête de cette femme. Mes amis et mon père venus m'aider et des curieux observant la scène, tantôt effarés, tantôt amusés. Tu avais pleuré dans les bras de mon père ensuite ce jour-là, en lui disant combien tu m'aimais et combien tu ne voulais pas que je te quitte. J'aurais peut-être dû me méfier, j'ai cru que tu étais amoureux. Je repense à ce jour où tu ne retrouvais plus ton billet de 50 euros et où tu m'as saisi par les bras pour me secouer en me disant que j'étais responsable. Cette peur que j'avais eue, cette colère en moi aussi, cette impossibilité de m'enfuir et de me débattre. Et ces bleus sur mes bras qu'il a fallu que je cache lors du repas dans ta famille qui a suivi. Je repense à ce jour où, enceinte de plus de 3 mois, tu m'as poussée hors de notre bus où nous habitions, avec un coup de pied dans le ventre. Ce souffle coupé, je le ressens encore quand, tentant de me calmer, j'avais passé des heures à errer dans les collines en pleurant. Je repense à tous ces matins où, énervé et en manque, tu t'en prenais à mes affaires, cassant les tableaux que je venais de terminer, balançant mes fringues en dehors de notre bus, déchirant mes livres. Et ces fois où nos amis venaient te calmer en te plaquant au sol, et moi, effrayée, attendant que ça passe. Alors je repense à ce jour où j'ai décidé qu'il était temps de reprendre ma liberté, et à cette violence et cette haine que j'ai lue dans tes yeux, cette porte se refermant sur mon bras, ces coups portés à mes jambes, mes cheveux arrachés. Et surtout à ce moment où tu as fermé tous les verrous des portes du bus, où tu as allumé le gaz et où tu m'as dit que nous allions crever tous les deux et que tu ne me laisserais pas te quitter. Mon père et mon frère tambourinaient aux portes pour tenter de m'aider. As-tu eu un éclair de lucidité quand tu as décidé de me lâcher ? Deux sacs poubelles en main, contenant quelques affaires, laissant tout derrière moi, tu as continué à exprimer ta colère en crevant les quatre pneus de la voiture de mon frère, puis en fracassant son pare-brise arrière. Je ne sais même plus comment nous avons réussi à nous enfuir ce jour-là. Une seule journée d'ITT m'a été octroyée à l'hôpital après tout ça. Physiquement, je n'avais que quelques bleus, mais dans ma tête, j'étais secouée pour toujours. Je repense à ce jour, toujours, où les femmes du cirque dans lequel nous travaillions à cette période, à qui j'avais dit que tu étais violent et que je devais te quitter, m'avaient répondu en me crachant au visage. Même s'il est violent, une femme ne doit jamais quitter son homme. Je repense à cette liberté que j'ai ressentie ensuite, mon corps plein de bleus, de bosses et la trouille au ventre. J'ai cru que tout ceci serait derrière moi, mais c'était sans compter ta fierté d'homme blessé. Je repense à cette fois, après notre rupture, où tu m'as jeté au sol, plusieurs fois, devant nos amis. Où tu as à nouveau cassé les quelques affaires que j'avais réussi à amasser, en vivant dans le petit camion que nous avions acheté en commun. À cette violence tellement puissante qui a poussé mes amis morts de trouille à me mettre dans une voiture, habillée en maillot de bain et en nuisette de déguisement, me glissant mon petit sac autour du cou avec seulement ma carte d'identité à l'intérieur. La voiture a démarré et je me suis retrouvée dans la rue, plus tard, sans rien, à me demander comment j'allais rebondir encore une fois. Je repense à ce jour où l'un de nos amis m'a ramené mes affaires que tu me rendais, un tout petit bout de moi balancé dans un seau de croquettes pour chien. Tu avais déchiré toutes les pages de mes livres et brûlé d'un trou de cigarette mes CD un par un. J'ai tout foutu à la poubelle. Je repense aux réactions de mes amis, à cette phrase qui m'avait poignardée en plein cœur. Il a pleuré, tu sais, il est malheureux. Je ne savais pas que le malheur excusait la violence physique et mentale. Je repense à cette fois où je suis allée porter plainte, car tu me harcelais depuis des mois, laissant message sur mon répondeur en me disant que tu allais me tuer et en me décrivant de quelle façon. Cette nuit où tu as débarqué dans l'immeuble de mes parents en gueulant et en cassant la porte d'entrée. Et cette manière dont les flics ont eu de me recevoir. Et cette plongée dans un trou noir quand le flic qui t'avait convoqué ensuite m'a appelé pour m'engueuler, me sermonner, me dire de venir tout de suite pour une confrontation et que tu es allé porter plainte contre moi. Anéantissement total, incompréhension et froid glacial dont je ressens encore la morsure aujourd'hui. Je repense à cette fois où j'ai recroisé des années plus tard un ami commun. Pendant des années, tu leur avais raconté à tous que c'était toi qui m'avais jeté dehors, car tu m'avais retrouvé avec un homme dans notre lit. Et ils t'avaient cru, bien sûr. Après tout, c'était moi la salope. Tu avais bien fait de me traiter ainsi. Je repense à ces 10 ans d'angoisse qui ont suivi. Cette prise de poids, ces nuits de cauchemar, cette thérapie. J'ai souvent souhaité ta mort, vraiment. Il y a des pardons qui sont trop difficiles à donner. Aujourd'hui, je repense à tout ça. Une boule encore au ventre et les larmes aux yeux. Toutes ces blessures sont gravées en moi à jamais. J'avais beau être forte, féministe, engagée, militante, grande gueule, et rien n'a pu empêcher ce qui s'est passé. C'est ça le quotidien d'une femme violentée, physiquement et moralement. La peur et la peur. Il n'y a rien d'autre que la peur qui nous traverse quand le soir la porte se referme, quand les amis sont partis, quand les voisins sont couchés, quand les flics sont si misogynes qu'ils crachent sur les femmes relatant des violences conjugales. Je finirai sur cette phrase que j'ai entendue dans le commissariat et qui m'a glacée d'effroi. « Madame, on ne peut rien faire contre lui tant qu'il ne vous aura pas vraiment fait mal et envoyé à l'hôpital. » Alors j'avais répondu « Donc, je dois attendre qu'il me tue pour que vous bougiez le petit doigt ?» Le silence qui a suivi en dit long sur le chemin à parcourir.
Amandine Dubois, une émission diffusée le 22 septembre 2020 et à retrouver dans son intégralité sur radiobraise.bzh. Et vous pouvez également vous connecter sur le blog de Françoise Ramel, Plan B, dernierbaiser.mondoblog.org. Et on poursuit avec un autre extrait de Femmes de caractère, l'émission qui donne la parole à des femmes inspirantes, mais qui ont toujours un peu de travail à faire avant l'émission. Elles doivent proposer 3 titres musicaux à écouter, venir avec des textes et avec un nom. celui d'une femme qui les ont inspirés. Ça peut être une écrivaine, une artiste, une femme engagée, parfois tout ça à la fois. Et ça peut être en plus une femme avec qui l'on a déjà partagé des choses. Vous connaissez peut-être Jeanne Quéré, paysanne bretonne. Peut-être même l'avez-vous vue ce matin sur le marché de Pontivy, derrière ses The Bio. En octobre, c'est elle qui présentait à Françoise sa femme inspirante. Femme de caractère, Françoise Ramel.
Je dirais franchement que si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour elle. Ah, sinon, je crois que je ne serais pas venue. Je ne voulais pas venir pour moi, mais je voulais venir pour elle.
Voilà, alors c'est un nouveau concept. Hein. Si vous êtes un peu timide, venez pour quelqu'un d'autre en fait. Alors c'est qui le quelqu'un d'autre
hein? Bon, c'est tout simplement ma grand-mère. Donc j'ai été élevée avec ma grand-mère, en partie avec elle surtout. Donc j'ai beaucoup partagé avec elle, donc, parce que je dormais avec elle jusqu'à mes 10 ans, enfin pendant les vacances. Et ma grand-mère parlait plus que bien breton, puisqu'elle était poétesse en breton. Alors, elle écrivait, elle parlait évidemment breton couramment, et elle écrivait énormément. Elle a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup.
Alors, on parle de Augustine Botterel. Alors, tu l'appelais comment, mémé?
Grand-mère, c'était grand-mère.
Ok, oui. Et grand-mère, elle vivait où?
Alors, grand-mère, elle vivait à Locmélar, donc ce qui est une petite commune au pied des Monts d'Arrée. Donc voilà pourquoi les Monts d'Arrée sont, voilà, mon cœur est là-bas. Voilà, parce qu'on les voyait de Locmélar, et puis après j'habitais Saint-Dégonnec avec mes parents.
Cette grand-mère, tu l'as vue écrire?
Alors, je l'ai vue écrire, oui, je l'ai vue écrire, bien sûr, parce qu'elle a même été éditée. Donc, en 72, elle écrivait beaucoup de poèmes. Alors, grand-mère, ce qui était marrant, c'est que, voilà, il fallait que ça rime. Hein. Pour elle, elle avait appris ça, donc un poème, il fallait que ça rime. Donc tous ses poèmes, c'est avec des rimes. Mais bon, j'espère des rimes riches, je sais pas, je peux pas dire, je connais pas assez la langue pour ça. Mais donc elle a écrit, et donc en 72 elle a eu le prix d'Armor, et en 73 aussi. Et il y a un éditeur de Brest qui a donc décidé de l'éditer, et donc du coup elle a écrit un livre avec ses recueils de poésie, donc qui ont été édités dans les années 73-74 sans doute quoi. Et donc elle a vendu, enfin je crois qu'elle l'a plus donné que vendu d'ailleurs à mon avis.
Oui, mais c'est important justement par rapport à l'époque. Qu'est-ce qu'elle faisait ta grand-mère?
Ma grand-mère, c'était incroyable. C'est ça que moi, quand on parle des gens qui sont ouverts parce qu'ils voyagent, je trouve ça hallucinant. Ma grand-mère a donc jusqu'à 58 ans. Là, tiens, l'âge que j'ai aujourd'hui, jusqu'à 58 ans, elle avait sans doute pas quitté le Finistère. Elle a dû aller, si elle a été 6 mois à l'école à Gourin, je crois. C'est la seule fois où elle a quitté, elle était de l'Empole Guimiau, ce coin-là. C'est la seule fois qu'elle avait quitté. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit. Et puis, elle voyageait à travers l'écriture, quoi. Donc,
Peut-être l'imaginaire Léonard. On avait Denès Prigent chez nous à Pontivy vendredi soir et samedi pour une très belle conférence à l'espace Kénéré. Voilà, c'est aussi rendre hommage à ce qu'une terre peut produire en termes d'imaginaire, une terre, une civilisation, une culture.
Et des paysans, quoi. Avec, moi j'aime ce mot-là, mais à l'époque c'était un péjoratif. Hein. Elle était une simple paysanne qui avait une petite ferme, mais vraiment, voilà, quelques vaches. Mais elle avait du caractère. Donc, le caractère, c'est plus pour ma grand-mère. Peut-être que j'ai pris d'elle quand même, mais elle avait beaucoup de caractère. Bon, peut-être un peu trop des fois, mais bon. Alors, elle m'a appris donc cet amour-là de la langue, même si, voilà, je l'ai pas appris assez parce que ça rentrait pas. Et aussi, elle m'a appris parce qu'elle n'était pas toujours juste quand même. Elle avait aussi ses défauts. Elle était aussi, à sa part. Donc, il faut pas mettre les gens sur des piédestals. Parce que moi, je l'ai mis sur un piédestal, et puis un jour, quand même, je me suis rendu compte que c'était un peu trop. Donc, c'est pas bien de mettre les gens sur le piédestal.
Trouver des références, des modèles, mais ne pas s'oublier à l'ombre de ces modèles.
Oui, non, je crois surtout que tous les modèles, ils ont aussi leur lumière et leur part d'obscurité qu'il faut accepter. Donc, les mettre sur un piédestal, c'est ne pas se rendre service, c'est pas rendre service à la personne non plus. On est tous des êtres humains et on a tous nos qualités et défauts. Donc, elle m'a beaucoup inspirée, ceci dit, mais voilà, faut. À un moment donné, peut-être un peu trop, et puis là, un jour, elle est...
Voilà. Ceci dit, aujourd'hui, alors est-ce que c'est par loyauté ou est-ce que c'est par amour de ton pays, la Bretagne, tu vas nous le dire, aujourd'hui, tu fais un gros travail de réhabilitation de cette poésie, de cette poétesse, en essayant de traduire les poèmes
Alors, pas en essayant de les traduire, parce que j'ai la chance, c'est un de mes projets depuis 20 ans, voilà, c'était de réécrire ces poèmes, parce qu'en fait, grand-mère a écrit ces poèmes, donc ils sont en breton, il y en a 4-5 dans son livre en français, tous les autres sont en breton, mais pas traduits, et j'ai le seul exemplaire qu'elle a traduit. Donc moi, j'ai l'exemplaire qu'elle m'a traduit, Mais en fait, je sais pas pourquoi, la page 14, elle m'a traduit la page 25. Enfin bref, tout est mélangé. Ce qui fait que c'est un peu compliqué quand on veut
remettre de l'ordre.
Et donc, je m'étais jurée de le faire. Et donc là, en fait, je peux te le dire, parce que je l'ai fini la semaine dernière, la partie en breton. Donc la semaine dernière, j'ai tout réécrit ces poèmes. Donc il y en avait une quarantaine, je crois, ou 45. Et donc, je les ai tous réécrits. Donc voilà, donc j'aimerais bien peut-être avec Joanne que tu as reçu peut-être les
Joanne Jiquel, qu'on salue au passage.
Voilà, donc
donc peut-être un projet d'édition bilingue breton français avec l'œuvre quelque part d'une Augustine Botorel qui est ta grand-mère,
d'une paysanne toute simple des Monts d'Arrée qui a eu une vie toute simple mais une vie riche quoi.
Mm-hmm. Pour rendre hommage à ta grand-mère Augustine Botorel, tu as choisi deux poèmes. Donc tu nous les lis tous les deux, hein. Et puis
donc son nom de poète c'était Rosenaer, donc c'est le nom de notre ferme maintenant.
Ah oui, disons aussi que Rosenaer ça veut dire coquelicot.
Voilà.
Alors un mot qui a beaucoup de résonance aujourd'hui dans le militantisme.
Oui, tout à fait. Alors en Aïneen, et tu es arvé naganalek, et tu es arbran naganesk, en dour azibubus en douar. Redet ar ra var an enkar. Gret e deus sur venogen et tre ar gwez hag ar reier gwen. Redek ar ra eb eon an neinewen. Sked di ar ra gant ar sklerigen, skeden ar beuzni eo. Ted ar ra eb dizro. Ma peuzanken, deut de gwelet an dour o redet ar o ners d'ar speret.
En quelques mots, ce poème parle de quoi, Jeanne?
Ça parle de l'eau. En fait, c'est l'eau parce que grand-mère disait toujours quand ça va pas, faut aller près de l'eau parce que l'eau rien ne l'arrête. Elle continue son chemin quels que soient les détours qu'elle fait. Donc donc l'eau ça renforce l'esprit.
Très bien.
Parce qu'elle suit son cours. Karout. Karout azo urzel. Ur mousroars erantro. Ur galon diskabel. Ragneket et dro. Endro deom kerken. Et lugern trawar vues. Irio. Varoas evelkent e vleugno ar garantes. Un dremwell an yo la laouret, a string banou a beptu, de omni e bepret o chacha e touez an dut. Rosenaer. Donc je m'excuse pour l'accent parce que voilà, j'essaye, mais voilà. c'est pas
facile. Chacha. Moi, j'aime beaucoup le chacha.
Et ça veut dire attirer.
Et donc, est-ce qu'on se quitte là-dessus alors? Pour redonner envie aux gens de poursuivre la rencontre avec toi, Jeanne, avec ta grand-mère, Augustine, avec Joanne Jiquel, qui va t'accompagner sur ce projet
peut-être,
d'édition, peut-être. On te dit lundi sur le marché, quoi.
Ah ben voilà.
Ça va être long la semaine sans toi, Jeanne. Est-ce qu'il y a d'autres marchés où on peut te trouver?
Non, il n'y a que le lundi matin. Voilà. Il faut venir rire aussi, parce que c'est bien de rire. Il y a besoin, et encore plus ces temps-ci.
Ouais, mais quand je vous dis qu'à femme de caractère, on ne fait que dans la rareté, je ne pensais pas que c'était à ce point. Allez, Jeanne, je te dis, Kenavo. Hein,
voilà,
à bientôt aussi peut-être au Salon du Livre de Carré, puisqu'on parle d'une poétesse en langue bretonne. Eh bien, le Salon du Livre de Carré, le thème cette année, c'est la poésie. Et le parrain est justement Dénès Prigent, qui nous a éblouis samedi à l'espace Kénéré de Pontivy. Allez, on vous dit à tous à bientôt. Où ça?
Là-bas, dans les Monts d'Arrée.
Ah ben oui. Allez, Patrick. Salut Patrick Ewen, merci de nous accompagner. À bientôt.
Dans les montagnes d'Arrée, on a tout, plus que partout ailleurs. On a de la brume, plus que partout ailleurs. Du vent, de la pluie, plus que partout ailleurs. De la bruine, plus que partout ailleurs. C'est un pays d'eau, et l'eau, c'est la source de la vie. Et de la vie, il y en a dans les Monts d'Arrée, plus que partout ailleurs. Christophe Colomb et Magellan ont traversé tous les océans. Marco Polo, sous son bateau, est allé à Cipango. Il n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver l'aventure au bout du chemin. Il suffisait pour ça d'aller où ça?
Là-bas dans les Monts d'Arrée.
Il suffisait pour ça d'aller où ça?
Là-bas dans les Monts d'Arrée.
Il pleut le matin, il pleut le midi. Demain ça fait briller la pluie. Le mois de juin, il y a des giboulées. Le mois d'août est bien arrosé. Et quand vient l'hiver au fond des vallées, il n'y a que des flaques et des lacs gelés. C'est un pays de pionniers, où ça?
Là-bas dans les Monts d'Arrée.
C'est un pays de pionniers, où ça?
Là-bas dans les Monts d'Arrée.
C'est un pays pour les garçons qui boivent du sec et qui puent des pieds, qui ont la barbe en paillasson et la langue en toile cirée. C'est un pays pour les hommes forts qui ont une haleine de hareng sort. Et nous, on va y aller, où ça?
là-bas dans les monts d'Arrée.
Et nous, on va y aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Et hop là! Des femmes si jolies à vous donner l'âme vaillante, intelligente et fière, elles sont les plus belles de la terre. Vous serez séduit et envoûté, vous ne pourrez plus vous en détacher. Pour les trouver, faut aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Pour les trouver, faut aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si le cœur vient à vous manquer, si le quotidien vous paraît gris, sachez qu'il est impayé. Vous devrez vous battre avec le vent, la pluie, mais chaque jour sera une aventure. Et puis, vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Hey, hop là! Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.